Les rendez-vous civils, un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation.
Bonjour. Dans ce deuxième épisode des rendez-vous civils, la première chambre civile de la Cour de cassation vous propose d'explorer une thématique juridique essentielle et particulièrement sensible, puisqu'elle se trouve au croisement de l'intime et du sociétal. Nous allons parler ensemble du droit de la filiation. Je suis Céline Marilly, conseillère référendaire à la première chambre civile, et pour traiter de ce thème, j'aurai le plaisir d'échanger avec Hugues Fulchiron, conseiller en service extraordinaire à la première chambre civile, ainsi qu'avec les conseillers référendaires Caroline Hazard et Laurent Duval. Mais avant de commencer, je laisse la parole à la présidente de la première chambre civile, Carole Champalon.
Bonjour à tous. La première chambre civile marche sur le chemin tracé par les chambres sociales et criminelles de la Cour de cassation, qui réalisent régulièrement des podcasts pour présenter leur jurisprudence, en consacrant il y a quelques mois déjà un podcast au contentieux des étrangers que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de la Cour de cassation. Par la voie d'un podcast, la première chambre civile souhaite s'adresser, au-delà de la communauté des juristes, que sont les étudiants en droit, les professeurs, les avocats et bien sûr nos collègues des juridictions dites du fond, les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, à un plus large public qui est concerné ou qui peut se sentir concerné par les décisions de cette chambre et qui veut pouvoir les comprendre. Ainsi, nous proposons à nos auditeurs, à travers la réalisation de ces rendez-vous civils, de disposer du moyen de savoir comment est interprétée et appliquée la loi dans tel ou tel domaine. Ce nouveau rendez-vous poursuit le même objectif que celui évoqué dans le premier podcast réalisé par la première chambre civile. Il s'agit de faire mieux comprendre les décisions rendues par la Cour de cassation, alors que le droit est complexe, provient de multiples normes nationales et internationales, s'exerce dans un monde ouvert, dans lequel les individus circulent librement, en tout cas pour certaines parties de la planète, et où coexistent et parfois se confrontent des valeurs distinctes. Dans certains domaines, le droit est resté très stable et a pu ensuite connaître des évolutions rapides en lien avec des progrès techniques ou des mutations de la société, parfois les deux, les uns interagissant avec les autres. C'est tout particulièrement le cas du droit de la filiation, objet du podcast que vous allez entendre, qui désigne le lien de parenté unissant l'enfant à son père et ou à sa mère, ou, aujourd'hui, parfois à deux mères ou deux pères. Ce lien est établi dans des conditions fixées par la loi et confère à chacun un statut. Il donne à chaque individu un état civil, l'inscrit dans une généalogie, dans une ou plusieurs familles, familles qu'il crée aussi par son existence même, et ce lien juridique, créé par la loi, lui donne un ensemble de droits et de devoirs. C'est dire si ce droit est au fondement de l'identité de chaque être humain et le relie au corps social par cette identité propre. Le droit de la filiation fait partie de ces domaines qui ont évolué à la faveur de changements des comportements sociaux, dont le législateur a tenu compte avec des réformes régulières depuis les années 70, alors que ce droit était resté assez stable depuis 1804, sous réserve de grandes réformes intervenues en matière d'adoption. Ce sont aussi de nouvelles possibilités offertes par le progrès médical, spectaculaire en la matière. Qui ne se souvient de la naissance au Royaume-Uni de Louise Brown en 1978, premier bébé éprouvette, puis d'Amandine en 1982 en France, qui ont été aussi prises en considération par le législateur, qui a dû distinguer ce qui était acceptable du point de vue éthique et ce qui ne l'était pas en la matière. Notre droit s'est ainsi enrichi de lois dites de bioéthique, dont il sera fait état dans ce podcast. Ainsi, par exemple, le législateur français déclare-t-il nul les conventions de gestation pour autrui, au nom du principe de l'indisponibilité du corps humain, principe qui n'existe pas dans toutes les législations étrangères. L'application des lois françaises est, dans le domaine de la filiation comme dans d'autres, parfois discutée au regard de normes supérieures à la loi, et c'est précisément à la Cour de cassation qu'il revient, dans des litiges entre particuliers, d'interpréter la loi mais aussi de veiller à ce que son application respecte les droits garantis aux individus par les conventions internationales et par la Constitution, puisqu'il lui appartient de faire respecter la hiérarchie des normes. En matière de filiation, la Cour de cassation doit ainsi fréquemment examiner des questions prioritaires de constitutionnalité qui invoquent le droit à une vie familiale normale ou le principe d'égalité. Les arrêts qui vous seront présentés illustrent à la fois le rôle de filtre de la Cour de cassation s'agissant du contrôle de constitutionnalité, l'amenant à transmettre ou pas au Conseil constitutionnel l'examen de lois dont la constitutionnalité est critiquée, selon que la critique est ou pas sérieuse. Ils illustrent aussi ce que l'on appelle le contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire l'analyse par la Cour de cassation du point de savoir si la loi en elle-même ou son application au cas particulier assure ou méconnaît le respect du droit à une vie familiale normale ainsi que le droit à la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont souvent invoqués dans ces litiges. La Cour de cassation est par ailleurs confrontée tout particulièrement dans ce champ du droit à la coexistence des systèmes juridiques dans le monde. Le juge de cassation était aussi concerné par la mondialisation qui favorise la mobilité des personnes, ce qui, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'a conduit à déterminer dans quelles conditions une décision de justice étrangère peut produire des effets en France. Ce domaine du droit, au cœur donc d'enjeux personnels et sociétaux nécessairement très sensibles, méritait amplement, notamment au regard de décisions récentes, que nous y consacrions ce nouveau rendez-vous. Lorsqu'elle interprète la loi, la Cour recherche d'abord quelle était la volonté du législateur, telle qu'elle s'est exprimée dans les travaux parlementaires. Si celle-ci n'apparaît pas clairement, elle a recours à différentes méthodes issues de la théorie et de la pratique juridique. Quand elle examine des questions prioritaires de constitutionnalité, elle se réfère aux décisions précédentes du Conseil constitutionnel. Quand elle recherche la portée des normes supérieures à la loi qui sont invoquées, elle dispose le plus généralement de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme qui guident la méthode d'interprétation des droits garantis par la Convention. Enfin, cette interprétation de la loi s'inscrit le plus souvent dans une construction progressive, une succession de décisions qui constitue ce que l'on appelle la jurisprudence. En matière de filiation, tant les conventions internationales que la loi interne donnent une boussole au juge, en faisant de l'intérêt de l'enfant une considération qui prime sur tous les autres intérêts en présence. C'est le sens de la Convention de New York sur les droits de l'enfant, qui érige en effet cet intérêt en considération primordiale. Ainsi, dans tout conflit de filiation, où est invoquée une atteinte à un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, le juge, qui devra faire une balance des intérêts en présence, doit faire primer cet intérêt supérieur de l'enfant. Si cet intérêt n'est pas apprécié directement par la Cour de cassation, car il faut rappeler que la mission de la Cour est de fixer l'interprétation de la loi et non de se prononcer sur les faits, sa mission est de veiller, en contrôlant les décisions des juges du fond, qu'ils ont correctement effectué cette balance des intérêts et motiver de façon adéquate la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce podcast, vous seront donc présentées quelques décisions récentes qui illustrent les grands enjeux qui traversent les règles de filiation contemporaine que le législateur a traitées dans de récentes lois que la Cour de cassation a dû interpréter. Parenté dite biologique et parenté dite sociale sont au cœur de ces enjeux. Ces décisions permettront aussi de présenter à nos auditeurs comment s'articulent en la matière les normes internationales et nationales et comment la Cour de cassation, dans ce que l'on désigne sous l'expression de dialogue des juges, appuie l'interprétation de la loi interne et contrôle son application par les juges nationaux, en conformité avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr, c'est d'abord par sa motivation que la Cour de cassation explique son raisonnement dans ces affaires délicates, étant précisé que toutes les décisions de la Cour de cassation, rendues au nom du peuple français, peuvent être consultées numériquement par chacun. La motivation, c'est une obligation faite à tout juge, et donc au juge de cassation également. Elle est depuis quelques années maintenant plus accessible, car plus lisible, et souvent plus développée qu'autrefois. Mais la lecture des arrêts reste encore souvent aride, car il repose, et c'est indispensable, sur la technique juridique, qui a ses méthodes et son vocabulaire spécifique, de sorte que nous espérons, par une présentation orale, rendre encore plus compréhensibles les décisions de la Cour. Cette présentation orale, faite à plusieurs voix, c'est aussi l'opportunité de montrer que la prise de décision à la Cour de cassation se fait de façon collégiale, dans des formations composées d'un nombre variable de juges, conseillers, conseillers en service extraordinaire, conseillers référendaires, en fonction de la difficulté juridique ou de l'enjeu de la solution que la Cour doit donner à la question de droit qui lui est soumise. Je remercie les quatre juges de la première chambre civile qui viennent de vous être présentés, qui vont s'exprimer au nom de la Chambre, d'avoir accepté de joindre leur voix pour réaliser ce deuxième podcast de la première chambre civile de la Cour de cassation sur le thème de la filiation, et je vous souhaite d'y trouver le plus grand intérêt.
Merci Madame la Présidente. Abordons maintenant les grandes questions qui se sont récemment posées à la première chambre civile de la Cour de cassation. Le modèle classique du droit de la filiation distingue la filiation biologique de la filiation adoptive. Mais aujourd'hui, la loi a ajouté à ce modèle de nouvelles formes de parentalité fondées sur l'idée de projet parental. Laurent Duval, bonjour. Pouvez-vous nous dire si la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur ces évolutions ?
Bonjour Céline. D'abord, il est important de rappeler que ce qu'on appelle la filiation biologique ne correspond pas nécessairement à la réalité biologique. Le législateur a instauré dans notre code civil, en l'occurrence au titre 7 de son livre 1er, un système de fiction et de présomption pour tenir compte du fait qu'en matière de filiation, il est impossible de refléter avec certitude la vérité biologique. Prenons un exemple de base. Dans le cadre d'un mariage, la présomption de paternité rattache l'enfant au mari de la mère. Ce lien de paternité est fondé sur une présomption de vraisemblance biologique. En d'autres termes, on part du principe que le père de l'enfant est l'homme avec qui la mère est mariée. Mais cette présomption peut tomber si l'on apporte la preuve que le mari n'est pas le père biologique de l'enfant. C'est un système qui existe depuis fort longtemps, mais qui, malgré son ancienneté, est toujours source de questionnements lorsque la filiation qui a été établie ne correspond pas à la réalité biologique. Et justement, la première chambre civile a été saisie par la chambre criminelle d'une demande d'avis sur la relation qui existe entre une reconnaissance de paternité et la réalité biologique.
Une chambre de la Cour de cassation peut donc en interroger une autre ?
Absolument, puisque chaque chambre de la Cour a son domaine de spécialité. Dans l'affaire que nous évoquons ici, un homme avait reconnu la paternité d'un enfant alors qu'il savait qu'il n'en était pas le père biologique. La chambre criminelle devait dire si cet homme s'était rendu coupable du délit de faux commis dans un document administratif. La chambre criminelle a alors demandé un éclairage à la chambre compétente en matière de filiation. Elle s'est donc adressée à la première chambre civile pour qu'elle lui précise en quoi consiste une reconnaissance de paternité. Est-ce que la reconnaissance de paternité revient à affirmer l'existence d'un lien de filiation biologique dont l'exactitude ou l'inexactitude peut être ensuite démontrée ? Ou est-ce que la reconnaissance de paternité consiste seulement à traduire la volonté d'un homme qui s'engage à prendre en charge l'éducation et l'entretien de l'enfant, indépendamment de tout lien biologique ? Dans son avis du 5 avril 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu que si la reconnaissance de paternité est présumée refléter la réalité biologique, il arrive que l'auteur de cette reconnaissance ne soit pas le parent biologique de l'enfant. En effet, au moment où l'administration enregistre la reconnaissance de paternité, aucun contrôle ne peut être effectué pour vérifier si elle est conforme à la réalité biologique. Vous l'aurez compris, il ne s'agit que d'une présomption. En d'autres termes, la conformité de la reconnaissance de paternité à la réalité biologique peut être contestée. Elle peut l'être, par exemple, par celui qui pense être le vrai père biologique de l'enfant et qui pourra alors faire valoir ses prétentions devant la justice. La chambre criminelle en a déduit que l'auteur d'une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l'enfant ne se rend pas coupable d'une infraction de faux. Cette procédure illustre qu'on peut avoir l'intention d'être parent, et c'est une expression « parent d'intention » que nous reprendrons, qui ne signifie pas pour autant avoir la volonté de fausser la vérité dès lors que se reconnaître parent peut intervenir en dehors de toute réalité biologique.
Ces questionnements autour de la réalité biologique se posent-ils aussi en matière de possession d'État ? Pour rappel, la possession d'État est un autre mode d'établissement traditionnel de la filiation qui repose avant tout sur la réalité du vécu de la famille.
La possession d'État, c'est un mode autonome d'établissement de la filiation. Selon l'article 311.1 du Code civil, La possession d'état peut être établie lorsqu'une situation de fait remplit un nombre de critères suffisants qui permettent de dire qu'il existe un lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est censé appartenir. Et le Code civil donne une liste de ses principaux critères. Le fait que l'enfant et celui dont on dit qu'il est son parent se considèrent réciproquement comme tels, le fait que le parent a pourvu à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le fait que la société, la famille et les institutions publiques considèrent ces personnes comme étant apparentées, ou encore le fait que l'enfant porte le nom de celui dont on le dit issu.
Faut-il vraiment que tous ces faits soient réunis pour établir une filiation par possession d'état ?
Pas du tout. Il suffit qu'un nombre suffisant de faits soient réunis. Il faut ce qu'on appelle, en langage juridique, un faisceau d'indices concordants, permettant de dire qu'une personne est le père ou la mère de l'enfant. Attention, il faut tout de même ajouter que la possession d'état doit présenter quatre qualités. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Vous ne parlez pas de la réalité biologique. La possession d'état est-elle complètement déconnectée de la réalité biologique ?
Oui et non. Compte tenu des faits nécessaires à l'établissement de la possession d'état, il est vrai que le Code civil semble en faire un mode de filiation fondé sur une réalité affective et sociologique plutôt que sur une réalité biologique. Mais la possession d'état est un mode d'établissement de la filiation au même titre que la présomption de paternité du mari ou que la reconnaissance de paternité, dont on a vu qu'elles reposaient toutes deux sur une présomption de conformité à la réalité biologique. Donc, le rapport entre possession d'état et réalité biologique est une question qui se pose. Or, à cette question, la Cour de cassation a répondu en rendant un avis à la demande d'un tribunal.
Donc une demande d'avis émanant cette fois d'un tribunal.
Oui, un homme souhaitait établir sa filiation à l'égard du fils de son ex-épouse. Il avait alors demandé à un tribunal de constater la possession d'état. Or, le tribunal s'est demandé si cela était possible compte tenu de ce qu'il n'y avait jamais eu de doute quant au fait que cet homme n'était pas le père biologique de l'enfant. Dans son avis du 23 novembre 2022, la Cour de cassation explique que la possession d'état est fondée sur l'apparence d'une réalité biologique tout en correspondant à une réalité affective, matérielle et sociale. Elle en a déduit que le fait pour cet homme de ne pas être le père biologique de l'enfant n'était pas, en soi, un obstacle à ce que la justice établisse la filiation demandée. C'est ensuite au juge de dire, pour chaque cas de figure dont il est saisi, si la situation familiale remplit les conditions de la possession d'état définie par le Code civil. Là encore, l'intention de se comporter comme un parent pourra, dans certaines hypothèses, transcender la réalité biologique.
On a parlé des modes traditionnels d'établissement de la filiation, qui sont liés à la réalité biologique. Mais, depuis quelques années, avec l'ouverture aux couples de femmes de l'assistance médicale à la procréation, le législateur a imaginé de nouveaux modes d'établissement de la filiation, déconnectés, cette fois, de toute vraisemblance biologique, du moins pour la femme qui n'accouche pas. Le législateur a instauré ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe anticipée. Or, ce système a été très discuté. Caroline, bonjour.
Bonjour Céline.
La première chambre civile a-t-elle déjà eu à juger des affaires qui faisaient entrer en jeu ce mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée ?
Oui, tout à fait. La Cour de cassation a jugé des affaires de cette nature. On lui a demandé si la reconnaissance conjointe anticipée était conforme à la Constitution. Mais elle a aussi été interrogée sur la portée des dispositions transitoires qui ont accompagné la mise en place de ce mécanisme. La loi bioéthique du 2 août 2021 a ouvert aux couples de femmes, vous l'avez dit, l'assistance médicale à la procréation. L'assistance médicale à la procréation, que l'on abrège AMP, mais dont on parle aussi très souvent en utilisant l'abréviation PMA, qui correspond à l'ancienne appellation de la loi. Donc, cette loi de 2021 a ouvert l'AMP avec tiers d'honneur aux couples de femmes. Il s'agit de femmes en couple qui ont un projet parental commun. Et dans ce cas, la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux femmes du couple, à l'égard de celle qui a accouché, mais aussi à l'égard de l'autre femme du couple, qui devient alors ce qu'on appelle la mère d'intention, et cela par l'effet de la reconnaissance conjointe anticipée. Ce mécanisme juridique, la reconnaissance conjointe anticipée, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans un litige qui opposait un couple de femmes au procureur de la République avant même que ce couple de femmes n'ait recours à l'AMP.
Je rappelle pour nos auditeurs qu'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, permet de vérifier qu'une disposition légale est conforme à la Constitution. La Cour de cassation joue un rôle de filtre de ces questions et ne les transmet au Conseil constitutionnel que si les griefs invoqués sont sérieux.
Ici, il s'agissait de savoir si l'article 342.11 du Code civil portait atteinte au principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes, dans la mesure où cet article impose le recours à la reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation à l'égard de la mère d'intention. Dans un arrêt du 10 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil constitutionnel. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, le principe d'égalité garanti par la Constitution ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes. Mais il faut que cette différence de traitement trouve sa justification dans l'objet même de la loi qu'il établit. Dans notre cas de figure, l'accès à l'AMP avec tiers d'honneur est le même que le couple soit composé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. Leurs situations sont donc les mêmes. En revanche, ces deux situations sont différentes si on les prend sous l'angle de la vraisemblance biologique du lien de filiation avec le parent d'intention. Si le parent d'intention est un homme, son lien de filiation avec l'enfant est vraisemblable d'un point de vue biologique. Mais il ne l'est plus du tout si le parent d'intention est une femme en couple avec une autre femme. Nous l'avons évoqué en début de podcast, les règles de la filiation qui sont définies au titre 7 du livre 1er du Code civil ont été construites sur l'idée de vraisemblance biologique. Or, dans le cas de figure d'un couple de femmes, cette vraisemblance biologique est à l'évidence inconcevable pour l'une des deux femmes. C'est en tenant compte de cette différence de situation que le législateur a opté pour un mode spécifique d'établissement de la filiation à l'égard de la mère d'intention, c'est-à-dire celle des deux femmes qui n'a pas accouché. Ce mode d'établissement de la filiation est détaché de toute vraisemblance biologique et est fondé sur l'idée de projet parental commun. On l'appelle la reconnaissance conjointe anticipée. Ce mécanisme est prévu à l'article 342.11 du Code civil. Cette reconnaissance conjointe anticipée est réalisée lors du recueil de consentement à l'assistance médicale procréation chez le notaire, ce qui a pour effet de sécuriser la filiation. Cette démarche produit les mêmes effets et ouvre les mêmes droits et obligations aux parents que les autres modes d'établissement de la filiation. Pour résumer, dans le cas d'une AMP avec tiers d'honneur, il existe une différence de traitement incontestable dans la manière d'établir la filiation selon que l'enfant naît au sein d'un couple composé d'un homme et d'une femme ou qu'il naît au sein d'un couple de femmes. Pour autant, cette différence de traitement est justifiée, puisqu'elle trouve sa raison d'être dans l'objet même de la loi bioéthique de 2021, qui est la loi qui rend possible aux couples de femmes de recourir à l'AMP avec tiers d'honneur. Donc cette question n'était pas sérieuse, et il n'était donc pas justifié de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Vous avez aussi indiqué que la Cour s'était penchée sur les dispositions transitoires de cette loi bioéthique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Oui, nous sommes toujours en 2024, le 23 mai plus précisément. La Cour de cassation s'est prononcée sur la portée des dispositions transitoires ayant accompagné l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Le législateur a en effet ouvert, à titre transitoire, la reconnaissance conjointe de l'article 342.11 du Code civil aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger, et cela avant l'entrée en vigueur de la loi bioéthique de 2021. Il s'agissait de permettre à la femme qui n'avait pas accouché d'établir un lien de filiation avec l'enfant déjà né via cette reconnaissance conjointe de l'enfant devant un notaire. Mais ce dispositif transitoire s'est avéré incomplet.
C'est-à-dire ?
En fait, au moment de la loi bioéthique en 2021, le législateur n'avait pas envisagé l'hypothèse d'un désaccord entre les deux femmes. Pour régler ce cas de figure et permettre l'établissement de la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, la loi du 21 février 2022 qui a ouvert l'adoption aux couples non mariés, a prévu la possibilité que l'enfant puisse être adopté par la femme qui n'a pas accouché, de manière tout à fait exceptionnelle, même en cas d'opposition de la mère légale, c'est-à-dire celle qui a accouché de l'enfant. C'est l'article 9 de cette loi qui prévoit que l'adoption puisse se faire dans un contexte conflictuel. Dans ce cas, cet article nous indique que l'adoption peut être prononcée lorsque le refus de reconnaissance conjointe est dépourvu de motifs légitimes, qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant et que la protection de l'enfant exige que cette adoption ait lieu. C'est cet article que la Cour de cassation a dû interpréter dans une décision qu'elle a rendue le 23 mai 2024. Dans cette affaire, deux femmes mariées avaient un projet parental commun. Elles se sont rendues en Belgique pour recourir à une AMP avec donneur anonyme. L'une de ces deux femmes a donc donné naissance à un enfant. La mère légale, c'est-à-dire celle qui a accouché, a consenti à l'adoption plénière de l'enfant par son épouse. Puis ces deux femmes se sont séparées et la mère légale n'a plus voulu que cette adoption intervienne. Un an plus tard, son ex-épouse a saisi la justice et la cour d'appel l'a autorisée à adopter l'enfant. Il s'agissait, pour la cour de cassation, de dire si, en ajoutant la condition liée au fait qu'une adoption ne peut être prononcée que si la protection de l'enfant l'exige, le législateur avait entendu subordonner l'adoption à une condition autonome que l'on pourrait qualifier de condition renforcée, tenant à la nécessaire protection de l'enfant contre un danger auquel il serait exposé si cette adoption n'avait pas eu lieu. La cour de cassation a jugé que telle n'était pas l'intention du législateur et elle a donc rejeté le pourvoi.
Mais quelle a été la méthode de raisonnement de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation s'est penchée sur l'amendement à l'origine de cet article de loi. Cet amendement avait pour objectif d'éviter qu'une séparation conflictuelle des parents ne prive l'enfant issu d'un projet parental de la protection qu'offre un second lien de filiation. Or, considérer que le législateur aurait posé une exigence supplémentaire, celle de devoir démontrer concrètement que l'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger, eh bien, cela serait revenu à limiter considérablement la possibilité d'adoption plénière, alors même que le refus de reconnaissance conjointe aurait été injustifié. Cette interprétation aurait été en contradiction avec l'objectif recherché par le législateur. La Cour de cassation a donc considéré que le législateur ne se référait, comme pour toute adoption, qu'à sa conformité avec l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié par le juge au regard des exigences de sa protection. Dans cette affaire, les deux femmes avaient construit un projet parental commun et des liens unissaient l'enfant et la mère d'intention. Le projet d'adoption s'inscrivait donc en conformité avec l'intérêt de l'enfant, permettant à ce dernier de s'inscrire dans ces deux familles.
Les questions liées à la place de la réalité biologique et de la volonté individuelle se sont cristallisées autour de la gestation pour autrui, qu'on appelle plus couramment la GPA. La GPA pose d'ailleurs bien d'autres questions de nature éthique. Quand je parle de la gestation pour autrui, je fais bien évidemment référence à la question de la filiation des enfants nés d'une GPA pratiquée à l'étranger, puisque la GPA en elle-même est interdite en France. Hugues Fulchiron, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous parler des décisions que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendues récemment sur le sujet ?
Oui, ce sont des arrêts qui ont eu un retentissement certain, mais il est important de bien comprendre de quoi il était question. Il s'agissait de savoir quels effets reconnaître ou non en France à la filiation d'un enfant né d'une GPA faite à l'étranger. Cette filiation ayant été établie dans un autre pays, en conformité avec la loi étrangère. La question est délicate car, comme nous le savons tous, le recours à la GPA est interdit en France et cette interdiction est d'ordre public. Elle a donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, mais jusque-là, le problème posé à la Cour de cassation était de savoir si l'acte de naissance établi à l'étranger pouvait être transcrit sur les registres français de l'état civil. Et c'est pour interdire cette transcription que le législateur est intervenu sur ce sujet à l'occasion de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Mais dans les affaires qui nous intéressent ici, il s'agissait de savoir si un jugement étranger qui établit la filiation entre un enfant né par GPA et ses parents d'intention pouvait être reconnu en France, et si oui, dans quelles conditions ? En fait, cette question s'inscrivait dans un cadre plus général, celui des conditions dans lesquelles une décision de justice étrangère peut être reconnue en France et y produire ses effets. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'exéquature. Alors, dans trois arrêts rendus les 2 octobre et le 14 novembre 2024, la Cour s'est prononcée pour un contrôle approfondi de ces décisions de justice rendues à l'étranger, compte tenu des questions éthiques soulevées par la GPA et des risques liés à une pratique dont la loi, je l'ai dit, a réaffirmé en 2021 l'interdiction en France. Les deux premières affaires concernaient l'une et l'autre un couple d'hommes. L'un des couples s'était rendu en Ontario et l'autre en Californie pour recourir à une GPA. Dans la troisième affaire, une femme était allée au Canada, précisément en Colombie-Britannique, pour réaliser une gestation pour autrui en ayant recours à un don de gamètes mâles et femelles. Alors, dans les trois affaires, la Cour de cassation a considéré que les décisions de justice étrangères qui avaient établi la filiation de ces enfants devaient être reconnues par la France.
J'imagine que la Cour de cassation a posé un certain nombre de conditions pour que la reconnaissance par la France de ces décisions de justice soit possible.
Bien sûr. Dans la première affaire, la Cour d'appel avait refusé d'accorder l'exéquature parce que la décision de justice étrangère n'était pas motivée et qu'elle était donc, selon la Cour d'appel, contraire à l'ordre public français en matière internationale. Car en matière procédurale, l'ordre public français en matière internationale exige qu'un jugement soit motivé, ne serait-ce que pour permettre aux juges français d'exercer un contrôle. Dans son arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation commence par rappeler les conditions générales de l'exéquature qui valent pour toute décision de justice étrangère, quel qu'en soit l'objet. Le juge français doit vérifier différents points, en particulier la conformité de la décision étrangère à l'ordre public et l'absence de fraude. Mais attention, le juge ne doit jamais procéder à une révision au fond de la décision de justice étrangère, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rejuger l'affaire, ni la rejuger en droit. En d'autres termes, le juge français n'a pas à se demander si le juge étranger a bien appliqué les règles de droit en vigueur dans son pays, ni rejuger l'affaire en opportunité, c'est-à-dire que le juge français ne doit pas se demander si le juge étranger a donné une bonne ou une mauvaise solution au litige. Alors, dans l'affaire qui nous intéresse, la Cour de cassation a rappelé qu'une décision de justice étrangère, qui n'est pas motivée, est contraire à l'ordre public international français de procédure, sauf à ce que celui qui demande la reconnaissance de cette décision étrangère ne produise les documents qui serviraient d'équivalent à cette motivation. Des documents qui, en fait, viendraient compenser cette absence de motivation, c'est-à-dire en pratique les pièces au vu desquelles le juge étranger a statué. La Cour de cassation en a tiré les conséquences en matière de GPA. Elle a souligné les enjeux éthiques et juridiques à prendre en considération, tout particulièrement la vulnérabilité de la mère porteuse, ainsi que le droit de l'enfant au respect de son identité. La Cour a aussi rappelé qu'en toute hypothèse, la décision étrangère doit être prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon la Cour de cassation, la motivation de la décision de justice étrangère ou les documents fournis par les parties qui viendraient compenser l'absence de motivation de cette décision doivent permettre au juge d'exéquature d'identifier les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet parental et de s'assurer que les parties à la convention de GPA, en premier lieu la mère porteuse, ont bien consenti à cette convention, que ce soit dans ses modalités ou dans les effets qu'elle produit sur leurs droits parentaux.
Pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes que le juge de l'exéquature doit pouvoir identifier ?
La Cour de cassation fait référence aux personnes mentionnées dans la décision de justice étrangère. On s'intéresse donc aux personnes qui ont participé au projet parental d'autrui et non pas aux parents d'intention. Donc la mère porteuse, éventuellement son mari, voire les donneurs de gamètes, mais attention, seulement si ces personnes sont mentionnées dans le jugement. En fait, il s'agit de savoir qui est qui, parce que ce qui est en jeu ici, c'est le droit de l'enfant au respect de son identité.
Et en ce qui concerne les consentements ?
Alors la Cour de cassation insiste sur le consentement des parties à la convention de GPA, et tout particulièrement le consentement de la mère porteuse. Et c'est bien normal, puisque la mère porteuse peut se trouver dans une situation de vulnérabilité. Ce consentement doit couvrir deux aspects, le processus de gestation pour autrui d'une part, les conséquences de la convention de GPA sur les droits parentaux d'autre part. Le juge français de l'exéquature doit se contenter de vérifier que le juge étranger a constaté l'existence de ces consentements. Il n'en contrôle ni la qualité, ni la réalité, ni la sincérité ou le caractère éclairé. Comme je le disais tout à l'heure, le juge français des équatures n'est pas là pour rejuger le dossier. Il opère simplement un contrôle sur certains points. Alors, dans notre affaire, la décision de justice étrangère ne remplissait pas les conditions de motivation attendues. De plus, le couple refusait de produire les pièces qui leur étaient réclamées et qui auraient pu éventuellement compenser cette absence de motivation. La Cour de cassation dit que le juge français avait eu raison de refuser de valider cette décision étrangère. Dès lors, le pouvoir en cassation du couple a été rejeté. Cette décision, on le comprend, traduit le souci, en l'état de l'interdiction de la GPA en droit français, d'assurer que les GPA réalisées à l'étranger fasse l'objet d'un contrôle par le juge français. Il faut bien comprendre que les conditions posées à travers l'ordre public procédural ne sont pas exclusives d'un contrôle sur l'ordre public de fond. En d'autres termes, le fait d'exiger qu'une décision de justice étrangère soit motivée ne suffit pas. Il faut que cette décision ne vienne pas heurter les principes essentiels du droit français. Je m'explique. Si une convention de GPA masquait un trafic d'enfants, le juge français pourrait refuser de valider la décision étrangère. Même chose si la GPA était réalisée dans des conditions indignes. Même chose encore si un doute planait sur la liberté du consentement de la mère porteuse, alors même que ce consentement apparaîtrait dans la décision étrangère. Et puis, il y a aussi les cas de fraude. On songe par exemple à l'adoption d'un enfant étranger qui serait déguisé en GPA. Tous ces éléments pourraient ressortir de la décision étrangère, des pièces du dossier et des éléments introduits au débat par le ministère public.
Dans cette affaire, l'un des parents, même si on ignore lequel, est bien le père biologique de l'enfant. Mais la filiation reconnue est celle des deux parents, le parent biologique et le parent d'intention. En revanche, dans la troisième affaire que vous avez évoquée, la mère d'intention qui s'est rendue au Canada était une femme seule. Elle a eu recours à un double don de gamètes, mâle et femelle. Dans ce cas de figure, la question de la place de la réalité biologique du lien de filiation se posait donc de façon encore plus directe. C'est d'ailleurs cet arrêt qui a suscité les réactions les plus vives.
C'est vrai. C'est une affaire qui a donné lieu à une décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2024. Expliquons le contexte. La mère d'intention était, comme vous l'avez dit, une femme seule lorsqu'elle est allée à l'étranger pour recourir à une GPA. De ce fait, elle n'a aucun lien biologique avec l'enfant qui était né d'un double don de gamètes, mâles et femelles. Et pour bien comprendre la situation, il faut préciser que la femme qui a porté l'enfant n'avait aucun lien génétique avec lui. Ce n'est pas elle qui avait fourni les gamètes femelles. Par ailleurs, à la différence de l'affaire dont nous avons parlé précédemment, la question qui se posait cette fois était bien une question d'ordre public de fond. Le parquet estimait en effet qu'une décision de justice étrangère établissant un lien de filiation entre une femme et un enfant n'ayant aucun lien biologique avec elle était contraire à l'ordre public français en matière internationale. La Cour de cassation a construit sa réponse en trois temps. Dans un premier temps, elle a rappelé que l'ordre public international français inclut les droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Or, en 2019, la Cour de cassation a admis que même si la France interdit la GPA, l'article 8 de cette convention nous conduit à accepter la reconnaissance du lien de filiation d'un enfant né par GPA à l'étranger, que ce soit à l'égard du parent biologique ou du parent d'intention. Dans un second temps, la Cour de cassation a retenu qu'aucun principe essentiel du droit français ne s'oppose à la reconnaissance en France d'une filiation établie à l'étranger, même si cette filiation ne correspond pas à la réalité biologique.
Peut-être pouvons-nous nous arrêter quelques secondes sur cette deuxième étape du raisonnement de la Cour ?
Bien volontiers. D'abord, notre Code civil, et là je fais référence au titre 7 de son livre premier, dont nous avons déjà parlé, notre Code civil permet que l'on établisse des filiations qui ne correspondent pas à la réalité biologique. Ensuite, les évolutions scientifiques ont fait émerger de nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Ces nouvelles techniques ont conduit à déconnecter le lien de filiation et la réalité biologique, même si, dans un premier temps, pour les couples de sexes différents, on a utilisé les instruments de la filiation biologique pour construire des filiations qui n'étaient pas des filiations biologiques. Enfin, lorsqu'il a ouvert l'AMP aux couples de femmes, le législateur a dû inventer de nouveaux modes d'établissement de la filiation fondés sur l'engagement personnel de deux personnes ayant construit un projet parental commun en dehors de toute ressemblance biologique. On en a parlé tout à l'heure. Venons-en maintenant à la dernière étape du raisonnement de la Cour de cassation. La Cour a tiré les conséquences de ces évolutions normatives, scientifiques et sociologiques sur la définition de l'ordre public international français. Elle a conclu que l'ordre public international français ne peut pas faire obstacle à l'exéquature d'une décision de justice étrangère qui établit un lien de filiation entre un enfant né à l'étranger d'une GPA et un parent qui n'a pas de lien biologique avec lui. Dans cette affaire, et n'y a pas de trouble à l'ordre public international de fond, aucun principe essentiel du droit français n'étant remis en cause.
Mais est-ce qu'on n'était pas face à un cas de fraude ?
En fait, devant la Cour d'appel, le parquet avait dit soupçonner une fraude à l'adoption internationale. Mais les juges avaient estimé que ce soupçon n'était pas suffisamment étayé. Et en tout cas, le fait que la décision de justice étrangère établisse un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, sans qu'ils aient entre eux de lien biologique, ne suffisait pas en soi à caractériser l'existence d'une fraude à l'adoption.
Mais une fois cette filiation reconnue en France, quels effets va-t-elle produire ?
Alors là, il faut à la fois s'intéresser au cas de cette femme seule partie au Canada, en Colombie-Britannique, mais aussi à celui du couple d'hommes qui s'est rendu en Californie. Dans les deux cas, il était demandé au juge français de l'exéquature de faire produire à ses décisions de justice étrangère les effets d'une adoption plénière en France.
Pourquoi cette femme et ce couple d'hommes ont demandé cela spécifiquement ?
Même si cela n'a pas été directement évoqué devant la Cour, il semble qu'en demandant que ces décisions de justice étrangères produisent les effets d'une adoption plénière en France, cette femme et ce couple d'hommes cherchaient à faire en sorte qu'au moment de la transcription sur les registres français de l'état civil, le lien qu'ils avaient établi avec leur enfant entre dans l'une des catégories prévues par le droit français de la filiation.
Et qu'a dit la Cour de cassation ?
La spécificité de la filiation construite, conformément au droit étranger, sur la base d'un projet procréatif impliquant le recours à une mère porteuse, a conduit la Cour de cassation à affirmer que la décision étrangère, revêtue de l'exéquature, ne peut pas être assimilée à une adoption. On ne peut donc pas dire qu'elle en produit les effets, l'adoption s'inscrivant dans une toute autre logique. Il faut d'ailleurs observer qu'en Californie, là où s'est rendu ce couple d'hommes, l'adoption existe. Mais ses effets ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, lorsque le juge français de l'exéquature valide une décision étrangère qui a établi un lien de filiation pour un enfant né par GPA, cette décision étrangère produit les effets qui sont attachés à cette filiation, conformément à la loi applicable, à chacun de ces effets, en matière d'autorité parentale, d'obligation alimentaire, de succession, etc. Et tirant les conséquences de ces arrêts, le ministère de la Justice, par une dépêche du 9 avril 2025, a fait connaître au parquet du tribunal judiciaire de Nantes, qui veille à la régularité de l'état civil des Français nés à l'étranger, les modalités de la transcription de cette filiation sur le registre français de l'état civil, afin que les enfants disposent d'actes d'état civil français.
C'est la fin de ce podcast. Vous retrouverez les références des arrêts cités, ainsi que le précédent numéro des rendez-vous civils, sur le site internet de la Cour de cassation, à la rubrique « Kiosque ».